Bonjour à tous, c'est l'émission Page en Partage avec notre amie Sophie Nativelle qui n'est pas là aujourd'hui, qui reviendra la semaine prochaine et j'espère avec un ou une invitée. En attendant, eh bien, je vais prendre sa place pour cette semaine. Voilà, au début j'avais des scrupules parce que je disais oui, moi-même étant auteur, animer une émission littéraire, même si en métropole ça se fait beaucoup, eh ben moi j'avais des scrupules à le faire, mais maintenant je n'en ai plus puisque notre amie Sophie est également auteur. Autrice, et oui, elle vient de publier son premier roman, après son recueil de poésie, voilà quelques mois, à force d'accueillir des gens qui écrivent, elle s'y est mise aussi, et pourquoi pas, parce qu'elle écrit très bien, et son nouveau roman, assez intimiste, mais également avec un mystère, alors je ne peux pas vous en parler, j'attendrai qu'elle soit là, avec donc le livre pour vous en parler, je l'ai déjà lu évidemment. On vous rappelle d'ailleurs le principe de Page en Partage, hein. On invite les gens que quand on a lu leur livre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez être invité à Radio Sud Plus dans l'émission, à nous envoyer ou à nous communiquer sur Internet vos livres d'une manière ou d'une autre. Alors on a Facebook évidemment avec la page Radio Sud Plus où vous pouvez envoyer un message. Nous avons évidemment notre mail rsplus@wanadoo.fr rsplus@wanadoo.fr et puis nos pages auteurs également sur Facebook, la page de Sophie et puis la mienne, alors il y a page en partage sur Facebook, page au pluriel et partage sans S, et puis bah moi Alain Blais d'auteur, et là on peut communiquer à Radio Sud Plus les éléments et puis ensuite eh bien on vous demandera de nous envoyer ou de nous faire parvenir ou de déposer la boîte aux lettres dans notre boîte aux lettres au 92 Tour des Azalées, votre livre. On pourra vous le rendre si vous n'en avez pas beaucoup, il n'y a pas de problème, on en prendra soin, mais il faut qu'on le lise pour pouvoir en parler, c'est très très important. Voilà donc, et n'ayez pas peur, Sophie est toujours très gentille avec les auteurs, hein, et moi généralement je ne m'en occupe pas moi-même, je le ferai peut-être un petit peu par la suite, mais pour l'instant je me contente d'avoir une rubrique sur Parallèle Sud. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de Parallèle Sud, qui est un média alternatif d'information sur Internet. Alors vous avez déjà des sites Internet d'info. On pense aussi à Coiffé, de Jean-Philippe Dijoux. Coiffé, qui est un site d'information pas très connu, Coafe, et qui donne des informations également sur la littérature. Nous avons évidemment les bien connus Info, l'info.re, Clique à nous, mais Parallèle Sud, comme Coiffé, sont des médias un peu alternatifs. Donc ils parlent de choses dont les autres ne parlent pas, bien souvent, les médias officiels. Et voilà, c'est à découvrir. Ils parlent d'écologie, ils parlent de culture. Et donc voilà. Alors donc, le principe de l'émission, je vous le disais, on invite l'auteur dès qu'on a lu son livre sur Radio Sud Plus et envoyez-nous des messages. Alors donc je la remplace et puis j'ai pas d'invité, je vous disais, mais j'ai lu deux livres. Alors deux livres qui ont un rapport pour l'un tout au moins avec l'actualité. Ce sont deux livres très contrastés, on va dire. L'un est réunionnais et l'autre vient d'un auteur irlandais. Et il parle, ce dernier livre, des conflits israélo-palestiniens, qui est évidemment un sujet dramatique et en plein dans l'actualité. Alors l'auteur, je commence par Aperogon. Aperogon ou Aperogon, c'est un titre mystérieux. En fait, qu'est-ce que c'est que l'Aperogon ? Alors on vous l'explique au début. C'est en fait une forme géométrique très compliquée et donc qui correspond un petit peu symboliquement à tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Alors ça, il explique dès le début, l'auteur, et puis après, eh bien, il découpe son ouvrage, qui est un roman, en chapitres. Mais alors, c'est fait, Colum McCann, donc l'auteur, a fait ce livre d'une manière très particulière. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est formidable, il y a plus de 600 pages, et alors, moi, c'est très rare que j'arrive à avaler 600 pages, hein, je vous le dis tout de suite. En livre local, je n'ai jamais réussi à lire un auteur qui faisait 600 pages, c'est clair et net. Ben, les seuls que j'arrive à lire, vraiment, faut que ce soit des bouquins vraiment fabuleux. Alors, à part Victor Hugo, Ken Follett et Stephen King, bah, il n'y en a pas beaucoup que j'ai réussi à lire. Hein, voilà. Alors, cela dit, 600 pages, j'ai réussi quand même avec Colum McCann parce qu'il a un truc. Alors, son truc, c'est de faire des chapitres quelquefois très courts. Le maximum de longueur, c'est 3 ou 4 pages. Et alors, tenez-vous bien, il y a même des chapitres, si on peut appeler ça ainsi, qui font une ligne. Alors, c'est étrange parce que ça fait en fait 1000 chapitres en 600 pages, dont certains font une ligne et d'autres font 3 ou 4 pages. Alors, quelquefois, c'est juste une formule. Une formule, voilà. Et comme ça se rapporte au chapitre précédent, et quelquefois, c'est un rapport, mais loin. On revient après sur la question quelques chapitres plus loin ou quelques phrases plus loin, et donc ça donne une vivacité que n'ont pas beaucoup de romans qui sont très épais et avec tout écrit en petites lignes. Vous voyez. Donc voilà, alors donc c'est assez extraordinaire, et puis on apprend des choses surtout. On peut prendre par exemple des formules, des traductions de l'arabe ou de l'araméen, et donc des petits détails de rien, par exemple, au-dessus de Jérusalem, il y a toujours un dirigeable qui flotte, enfin un dirigeable pas très sympa. Hein. Évidemment, ce sont des dirigeables destinés à vérifier s'il n'y a pas des petits sauvageons avec des pierres, voire pire, dans les rues de Jérusalem, et également dans la province voisine. Donc, les caméras du dirigeable qui pivotent légèrement, et les objectifs qui s'élargissent, déjà des hélicoptères tournent au-dessus d'Anata, voilà. Alors, c'est des phrases comme ça qui donnent envie de continuer, et ce dirigeable qui revient dans plusieurs chapitres, il s'élève au-dessus de Jérusalem, et puis on le suit du sol, et bien les Palestiniens et les Israéliens suivent ce dirigeable inquiétant, et on est inquiet aussi bien de ce qui se passe au sol que de ce qui peut se passer dans le ciel, et alors maintenant n'en parlons même pas au-dessus de Gaza. Quoi qu'il en soit, et bien vous avez plein de choses comme ça à découvrir. Par exemple, la manière, et ça j'en ai parlé sur Facebook, sur ma page d'ailleurs, c'est la manière dont est composée la Cisjordanie. Et ça, peu de gens le savent bien souvent. En fait, vous avez plusieurs zones. On sait que la Cisjordanie, comme Gaza, a été en quelque sorte colonisée par Israël quand il y a eu la guerre, lors des guerres, où finalement Israël a gagné face aux Arabes qui voulaient carrément supprimer Israël, hein, pour certains. Il faut annihiler le territoire des Juifs, voilà. Alors, après, on discute évidemment qui a commencé, la poule ou l'œuf, mais cela dit, ensuite, les Juifs, malheureusement, on peut le dire, on gardait les colonies. Elles auraient pu dire, au bout de quelques années, on pacifie le truc et puis on s'en va. Non, ils ont carrément colonisé, c'est-à-dire qu'ils se sont installés en Cisjordanie. Et donc, la Cisjordanie, contrairement à Gaza, eh bien, il y a plein de colonies juives et de villes et villages juifs qui côtoient les villages et villes palestiniens. Alors, vous avez par exemple la zone A, la zone B, la zone C, la zone H et 2, et bien d'autres encore, parce que ça correspond à chaque communauté. C'est comme si à La Réunion, tu avais les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, ou alors les Catholiques d'un côté, les Musulmans, chacun son quartier. Bon, alors c'est hallucinant, et c'est un truc qu'on n'imagine pas chez nous, mais ça j'y reviendrai avec le livre de José McCarthy, Être et ne pas être, vraiment la différence du coq à l'âne qu'il y a entre tout ça. Alors cela dit, la zone A, je vous cite un passage de ce livre, donc Colum McGann à Pérogone, qui en dit long, même si c'est un roman, sur les vérités palestiniennes et israéliennes. La zone A, donc en Cisjordanie, étant constituée par les principaux villages et villes palestiniens, encerclés, éclatés et contrôlés par des dizaines de checkpoints israéliens, patrouillés par les forces de sécurité palestiniennes, mais accessibles à tout moment à l'armée israélienne. La zone B, sous administration civile palestinienne, soumise au contrôle de la sécurité israélienne avec la coopération de la police palestinienne, de sorte que les forces de sécurité palestiniennes n'opèrent qu'avec la permission des Israéliens. Oui, c'est kafkaïen, hein, et c'est pas fini. La zone C, la plus grande, disposant de l'essentiel des ressources naturelles de la Cisjordanie, contrôlée par Israël, où l'autorité palestinienne est responsable de l'éducation et de la santé des seuls Palestiniens, où Israël assure exclusivement la sécurité et l'administration de la population dans plus de 100 colonies illégales, où 99% de la zone sont étroitement limitées ou interdits en matière de construction et de développement aux résidents palestiniens. Obtenir un permis pour un projet relatif à l'eau ou au bâtiment étant presque impossible. Et puis citons aussi les zones H et 2 à Hébron, également connues hein, pour les troubles qu'il y a eu assez souvent en Cisjordanie. 80% de la ville administrée par l'autorité palestinienne, 20% contrôlée par Israël, avec des zones ouvertes aux seuls israéliens et détenteurs de passeports internationaux. Comment, oui, vous voyez, c'est compliqué, hein, à tel point que les gens là-bas, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, s'y perdent. Alors vous avez des contrôles, des checkpoints un peu partout pour vérifier si vous ne passez pas dans un territoire qui vous est interdit ou autorisé seulement à certains moments. Alors par exemple, vous êtes israélien, vous allez voir un copain en Palestine. Hein. Ah ben, voilà, vous arrivez à rentrer et après vous sortez en retard, vous pouvez plus sortir. Le garde va vous dire « Ah ben non, désolé, on peut plus vous laisser passer ». C'est ce qui passe d'ailleurs donc à la barrière d'un de ces territoires, au héros, un des héros du roman de Colum McCann. Il reste bloqué et vraiment il doit insister mais auprès du soldat pour pouvoir passer. Le mec il veut rien entendre. « Mais je suis israélien, laissez-moi rentrer chez nous. » « Non, non, ben vous êtes rentré en Palestine, vous ne pourrez pas ressortir avant demain. » Voilà, c'est, et évidemment, il peut même risquer sa peau dans ce cas-là, tu vois, dans l'autre sens aussi d'ailleurs. Alors l'entrée, voilà, interdite ou pas aux ressortissants israéliens ou palestiniens. Et alors, il y a une phrase, un chapitre finalement, qui revient tout le temps dans le roman, au moins 10 fois. C'est simplement, alors il met une phrase en hébreu, et en dessous, la traduction. « Ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas. » Voilà, ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas. Seulement. Depuis le temps qu'ils ont discuté, on voit que malheureusement, ça répète toujours d'un côté ou de l'autre. Du côté, évidemment, du Hamas assassin, on peut l'appeler comme ça, ou du côté de Netanyahou qui nettoie justement, mais à fond. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est carrément, c'est le comble finalement, dans une guerre, tu vois, de faire des frappes chirurgicales sur des hôpitaux. Là, c'est vraiment le comble, chirurgical. Alors, c'est le cas de le dire. Alors, cela dit, eh bien, vous avez c'est une histoire émouvante, Perrogone. En fait, l'histoire elle-même, c'est l'histoire de deux pères de famille. La fille du premier, donc israélien, est tuée par un kamikaze. Elle se balade dans la rue avec des copines et il y a un kamikaze qui se fait exploser, un palestinien, et donc elle est morte, voilà, ainsi que ses copines. Et le père, évidemment, est désespéré. Et puis, un autre père, lui, palestinien, dont la fille est victime d'une bavure policière, et là, c'est un policier israélien, donc qui croit que les jeunes qui sont un peu plus loin vont lui balancer des pierres, alors que c'est des écolières qui vont à l'école, simplement, et qui sortent d'acheter des bonbons juste dans la rue d'en face, et donc il tire avec ce qu'il jette des petites balles de caoutchouc, là. Et alors, oui, ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, pour les gilets jaunes et autres, chez nous, mais enfin, cela dit, les balles de caoutchouc, et alors là, il y a une description même de la balle de caoutchouc hein, qui est faite par Colum McCann, c'est dingue, il y a une bille de fer à l'intérieur et du caoutchouc à l'extérieur, et quelquefois, elles sont même récupérées, ces billes, que ce soit par les Palestiniens ou par les Israéliens, parce qu'on peut s'en resservir, elles peuvent être recyclées, oui, et il y en a qui en font des pots de fleurs ou n'importe quoi, c'est complètement fou. Alors donc, l'histoire de ce père, de ces deux pères, l'Israélien et le Palestinien, dont les filles sont victimes du parti adverse, on va dire, et ils se rencontrent et ils décident, de faire des conférences dans le monde entier pour la paix, pour dire, il faut qu'on fasse la paix, et les deux disent la même chose, palestiniens comme israéliens, le seul moyen de faire la paix, c'est d'avoir chacun un territoire, enfin un territoire qui appartienne vraiment aux Palestiniens et un autre qui appartienne vraiment aux Juifs, et que les deux ne soient pas remises en question par aucun parti dans le monde, voilà, parce que évidemment il y a aussi on sait que les puissances du monde entier se battent pour l'un ou pour l'autre, hein, plus ou moins ouvertement. On sait de quel côté sont les uns les pays arabes et de quel côté sont les pays plutôt occidentaux. Donc quelquefois ça se voit même quand on lit la presse. Donc justement c'est ça qui entraîne après le complotisme ou l'intolérance. Il faut objectivement dire, ça suffit, on met une frontière bien nette. Ceux qui ont déjà colonisé ce qu'ils ne devaient pas coloniser, on les indemnise et puis on les remet sur leur territoire. Et puis voilà, on rend à César ce qui est à César, hein, pour parodier un petit peu la Bible. Alors cela dit, voilà, Colum McCann à Perrogone qui montre que finalement plus on a de haine, plus on entretient la haine et plus elle se développe, que les enfants finalement de Gaza et de Cisjordanie qui balancent des pierres continueront à en balancer et même à se faire kamikaze si on continue finalement à faire cet enchaînement de violence des deux côtés. Alors pour que ça s'arrête, il faut que peut-être au plus haut niveau on dit stop, mais apparemment beaucoup n'ont pas envie, parce qu'on sait peut-être aussi que le commerce des armes ça rapporte gros, et oui. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir avec la Réunion, et la Réunion heureusement, hein, et la Réunion justement ça fait complètement l'antithèse avec l'ouvrage de José McCarthy qui lui explique dans son livre être et ne pas être, comment à La Réunion on a réussi à faire se côtoyer plein de mondes différents, hein, que ce soit les races, les ethnies, les religions, les coutumes, et ben ça se passe très bien, enfin pas trop mal, hein, il faut bien le dire, par rapport à tous les autres pays du monde. Et ça, ben, tout le monde est d'accord pour le dire. Hein, et d'ailleurs, je vous citerai l'article que j'ai fait d'ailleurs à ce sujet pour Parallèle Sud l'autre jour, hein, que vous pouvez retrouver avec les autres sur le site de Parallèle Sud. Et moi, ça s'appelle Livre à domicile et qui finalement parle de ce livre également et qui fait l'objet donc la semaine dernière. Hein, je l'ai édité. Être ou ne pas être. Être et ne pas être. Alors ça, c'est très important, hein, ne pas se tromper, c'est être et ne pas être. Et justement, José McCarthy explique, avec son compère également, qui a fait le livre avec lui, ils expliquent, Paul Mazzacca, donc, ils expliquent tous les deux comment leur est venue l'idée de ce livre et pourquoi ils l'ont appelé « Être et ne pas être ». Et ça a un rapport également avec les philosophes français « Être ou ne pas être », tel et puis autres. Donc voilà, « Je pense donc je suis », voilà tout ça. Et ils reviennent un petit peu à ça, à la pensée également française, africaine, asiatique. Et puis comment La Réunion a contourné tout ça pour finalement s'entendre bien avec tout le monde et puis même mélanger quelquefois en religion, on le voit, hein, par exemple, des mélanges un petit peu de diverses religions, malabar avec catholiques et Saint-Expédite, et puis voilà, tout, même avec des choses plus prosaïques. Et alors donc, le marronnage et le métissage, être et ne pas être, c'est un petit peu ce que dit Joseph McCarthy dans ce titre de réflexion philosophique, l'ouvrage donc de Paul Mazzacca et José McCarthy, qui vient d'être édité par Comme qu'il faut. Alors un petit mot pour Comme qu'il faut, qui est quand même une superbe maison d'édition et de diffusion de livres à tendance toujours culturelle. Hein. C'est à la fois littéraire et culturel, un peu comme les éditions K. On va pas trouver de romance tellement là-dedans. Hein. Non. Il y a pas de romance avec des filles qui rencontrent un garçon à New York. Et voilà. Et non, c'est pas ça du tout. Eh oui, non, je moucate un peu. Non, à peine. Alors ces deux arboutants de la culture que sont donc Mazzacca et McCarthy. Ils m'ont inspiré moi-même pour la rubrique, parce que l'histoire si particulière du peuplement de La Réunion au cours des siècles a donné donc ce résultat qu'on trouve nulle part ailleurs sur la planète. Et moi, j'en ai tiré une théorie également un peu philosophique. Alors, il semble que depuis quelques années, La Réunion donc se situe à un point d'équilibre ethnique, d'harmonie entre tous les habitants. Alors, tout le monde admire ça, hein, que ce soit Miss France ou Michel Onfray, ils sont tous d'accord là-dessus. Dès qu'ils arrivent à La Réunion, « Oh, mais dites donc, mais chez vous, c'est incroyable, tout le monde est mélangé, s'entend bien. » Alors bon, il y a des accros, hein, surtout quand une nouvelle composante arrive trop vite et menace le mélange homogène. Mais pourtant, cette symbiose culturelle, cultuelle, sociétale se maintient. Alors peut-être la départementalisation a contribué à réduire le côté colonial des DOM et les injustices sociales. On a vu déjà que ça avait pas mal changé après l'élection de Mitterrand, quand il y avait eu quand même pas mal de gens qui protestaient, oui, le créole, on veut le créole, on veut même l'autonomie, tout ça. Et Mitterrand, après il leur a donné des places à certains d'entre eux, ça les a calmés. Et puis en même temps, on a laissé la place justement au Maloya et à plein d'autres cultures qui, sous les airs de Michel Debré, n'étaient évidemment auto-censurées, on va dire. Voilà. Alors c'est un autre sujet d'ailleurs. Alors cependant, ce mélange dans lequel chacun garde ses spécificités, va-t-il résister à la mondialisation des corps et des âmes ? C'est la question que moi, je me pose. Alors quand on parle de fusion, de métissage, on peut aboutir à un point de rupture où on risque d'oublier son origine propre. Une fois, je me souviens que même Daniel Warreau m'avait dit il y a très longtemps, le métissage, c'est pas une solution suffisante. Ben oui, parce qu'il faut se métisser, mais alors à l'heure actuelle, les spécificités de chaque ethnie, les rapprochements, les affinités, les points communs ne sont pas encore gommés par la mondialisation. Hein, on a encore donc des Chinois, des Arabes, des Tamouls, des Yabs qui ont tendance à se regrouper dans diverses circonstances. Alors il y a le cas des oreilles de Saint-Gilles, hein, la gentrification, hein, alors c'est un exemple à peine différent en fait, voilà. Alors justement, ces regroupements, sauf invasion brutale, sont sains et permettent de conserver les traditions, coutumes et cultures de chacun sans rejeter ni annihiler les autres communautés. Et puis on se regroupe toujours par affinité, hein, c'est humain, c'est naturel. Il en va de même pour tous les groupes, les familles, les membres du Rotary, du Lions Club, les francs-maçons, les collectionneurs de timbres, les anciens élèves d'une école. Tout le monde a tendance à se regrouper, hein, comme ça, par affinité. C'est un peu normal. Alors, Seulement, le problème, c'est la mondialisation galopante du tout économique. Hein, bientôt, les gens vont tous faire la même chose au même moment, sur leur ordinateur. Compétition consumériste. Alors, est-ce qu'on va pas vers une perte culturelle pour toutes les communautés au profit d'un métissage où nous ne serons plus ni noirs, ni blancs, ni jaunes, mais tous du même gris uniforme? Alors, c'est ce que je note, moi, dans la rubrique que j'ai faite pour Parallèle Sud. Le gris couleur des notables qui imposent leurs lois et leurs usages, leur consommation et leur sous-culture de médiocrité médiatique. Et on le voit en littérature également. Bon, maintenant, il y a des choses qui amènent la liberté, par exemple la liberté d'éditer soi-même quand on veut, comme on veut, sur Amazon, un peu partout. J'ai envie de raconter ma vie, même si elle n'est pas très intéressante. Allez hop, je fais un bouquin. Au moins, voilà, je pourrais le montrer à ma famille. Je suis écrivain, youpi. Voilà. Et là, évidemment, il y a le meilleur et le pire. Il y a des gens qui n'auraient pas pu être édités parce que, évidemment, il y a un tri vraiment un tri impitoyable des éditeurs, mais il y en a qui te ferait mieux de pas éditer, voilà. Bon, alors, justement, hein, moi, je fais pas l'émission de Sophie parce que je pourrais pas m'empêcher des fois de dire à l'auteur, mais dites donc, là, vous avez laissé des fautes d'orthographe quand même, c'est pas trop sérieux dans un bouquin. Bon, quoi qu'il en soit, notre époque a ceci quand même d'exceptionnel, qu'on regroupe une diversité incroyable et sans que ça explose parce que petit à petit, les gens sont venus, mais c'est un laboratoire en quelque sorte, comme l'ont dit certains, et ça, c'est dû à la chimie primitive de ces habitants successifs, venus, avec leurs différences, peu à peu enrichir un tronc commun dont les racines se perdent profondément dans le passé. Et moi, j'ajoute, faisons en sorte que les termites de la mondialisation ne les détruisent pas, ces racines. Alors, José McCarthy, voilà, d'ailleurs je lui en parlerai, il y a une belle réunion qui va avoir lieu, où ils vont parler de leur livre, José McCarthy et Paul Mazzacca. Ce sera ce samedi à la Ravine des Cabris, donc au Vieux Domaine, hein, le Vieux Domaine à la Ravine des Cabris, et ils vont à 9h30, donc c'est prévu, et ils vont parler un petit peu de leur livre de cette philosophie qui s'en dégage. Alors en gros, voilà, moi j'avais ajouté mon grain de sel dont je vous parlais, et maintenant je vais parler de leur livre proprement dit, et il y a la jeune également du livre, donc c'était des discussions qu'ils avaient tous les deux, des discussions philosophiques. Donc José McCarthy, c'est un ancien de témoignage, alors on va dire ouais, c'est un communiste de la première heure, hein, il a sa vision de la Réunion, autonomiste, blabla. Non, pas du tout, faut pas le voir comme ça. Et puis finalement, n'oublions pas que ce sont ces gens-là, dans les années 70, qui ont quand même fait revivre la poésie et la littérature de la Réunion, hein. De même que les groupes comme Ziskakan, Basse-Terre. Voilà, quand il y avait finalement rien, hein, ou pas grand-chose. Qui se souvient encore de ce qu'il y avait en littérature et en musique entre 1900 et 1950 à La Réunion, hein? Ah ouais, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai déjà fait une émission là-dessus d'ailleurs. Hein. Donc vous pouvez la retrouver sur Radio Sud Plus, d'ailleurs sur la page en pargeotte. Alors donc, pour la préface du livre de José McCarthy, eh ben, il a vu, c'était des intuitions au départ, et alors, voilà, ils disent, c'est peut-être pas parfait, hein, on veut pas, imposer notre point de vue, mais ce sont des questionnements. Et finalement, ben, c'est ça la philosophie. C'est pas donner des réponses, c'est d'abord questionner, ne pas imposer son point de vue, mais est-ce que, voilà, mettre un point d'interrogation. C'est ce que font tous les philosophes, sauf certains des philosophes médiatiques, finalement, qui pensent surtout à se présenter eux-mêmes au public. Voilà, on ne citera pas de nom, pour ne fâcher personne. Et alors, être et ne pas être, et parce que, évidemment, cogito ergo sum, la critique de la raison pure, et puis également je pense donc je suis, de Descartes, la pensée cartésienne, ils reviennent donc à tous ces grands philosophes, et puis aussi être ou ne pas être, telle est la question. Alors c'est totalement différent, être et ne pas être, c'est un contournement, parce que le Réunionnais, comme il l'explique dans le livre, ont un peu contourné la difficulté, comme ils le font également dans leur manière de vivre, et de partager, de fusionner quelquefois des religions ou des croyances ou des traditions. Alors voilà, donc le yin et le yang également est évoqué dans cette introduction, mais je ne vais pas vous lire quand même tout le bouquin. En tout cas, c'est grand public, hein, c'est absolument pas un bouquin compliqué, et c'est ça qui est formidable, même si vous n'avez jamais lu un bouquin de philosophie de votre vie, c'est vraiment simple, Mais vraiment, ça encourage justement à lire ce genre de choses. Et puis c'est vivant, voilà, c'est vivant. On sent que ça a été fait par un ancien journaliste d'ailleurs, et pas seulement par un érudit qui veut imposer sa science. Alors on dit bravo à José McCarthy et Paul Mazaka. Paul Mazaka qui lui était directeur de la MJC de Château-Morange hein, très longtemps. Et voilà, donc ce sont des gens à découvrir pour changer un petit peu de la philosophie telle qu'elle était considérée, telle qu'elle considérait les créoles il y a quelques centaines d'années, et même avant. Hein. Là, il fait référence à même à Voltaire. Bon, Voltaire a dit des conneries comme tout le monde, comme moi, comme certainement José McCarthy aussi, hein. On en dit tous. Mais il faut remettre un petit peu le contexte de l'époque. Hein. Évidemment, on sait que Voltaire, il a dit que les Blancs étaient supérieurs aux Nègres. Voilà, bon. Mais est-ce que c'est la peine, là je suis pas trop d'accord avec José, est-ce que c'est la peine de mettre ça en quatrième de couverture? Les temps ont changé, on n'en est plus là quand même. Sauf pour certains, me direz-vous. Oui, il y en a encore, mais il y a des cons tout le temps, hein, José, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais enfin, moi je me souviens du livre de géographie de ma grand-mère en 1904, et dans un livre de géographie destiné aux enfants, eh ben, il y avait marqué clairement, en 1904, hein, 1904, que eh bien, il y a trois races humaines, les blancs, les jaunes et les noirs. Les blancs, donc, sont supérieurs. Voilà, les occidentaux principalement. Les jaunes, bah, ils sont restés dans les traditions, tout ça. Et les noirs sont... alors, les nègres sont vraiment moins intelligents que les blancs. C'était mis dans un livre destiné aux enfants en 1904. Alors, moi aussi, je pourrais revenir là-dessus, José. Mais voilà, c'est finalement la fusion. Bah, c'est peut-être oublier tout ça et faire comme Mandela. Voilà, on tire un trait pour tout ça, sur tout ça. Et puis maintenant, on est tous frères. Hein. Mais il faut pas oublier quand même le passé, je suis d'accord. Et puis cela dit, bah voilà, alors on va passer à un autre sujet, mais je vais quand même vous passer un petit peu de musique.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on sait bien partager les cordes des pendus. Maintenant que John Bull nous boude maintenant, que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de cent ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence, parler, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santé, qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas, que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens. Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemies, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main. Mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon, ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les deux en suivant Marlboro qui va en guerre au pays des enfants. Oh, vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu. Quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas. C'est de myosotis fleuri dans mon jardin, un petit forget-me-not pour mon oncle Martin, un petit Fergist-Meinisch pour mon oncle Gaston, pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teutons.
On va continuer cette petite rubrique. Hein. J'ai été un petit peu long pour la première partie. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. Là, on va passer maintenant à quelques nouvelles, quelques échos du livre local. Alors d'abord, le grand prix du roman Métis. Alors, ça a été attribué le 16 novembre dernier. Hein, c'est organisé par l'association La Réunion des Livres. Alors si vous cherchez n'importe quelle information concernant les auteurs de La Réunion, leurs livres, également les échos sur les édits, les dédicaces, les concours, tout ce que vous voulez savoir sur le livre réunionnais, le livre pays, c'est sur le site de La Réunion des Livres. C'est la principale association littéraire de l'île, et on est loin du temps où il y avait l'ADER et l'UDIR et quelques associations plus ou moins donc subventionnées et marginales, enfin peu subventionnées dirais-je. La Réunion des Livres, c'est vraiment un énorme truc, hein, avec plein de, bah, on peut le dire, de salariés même. Et alors donc, La Réunion des Livres, et il a décerné son grand prix. Alors les grands prix, il y en a plusieurs dans l'année, hein. On en a vu un également attribué par Comme qu'il faut au Salon de l'étang salé, on en a d'autres également dans l'année, alors pour les prix jeunesse, les prix même des concours du conseil départemental pour le prix du livre pour petits bébés, hein, de 0 à 4 ans, il y a de tout. Alors il y a aussi le grand prix du roman Métis. Alors évidemment, qui dit roman métis, faut qu'il y ait un rapport avec le métissage. Eh ben, on y revient toujours, voilà. Alors donc, le métissage, et là, ça n'a pas été attribué à Être et ne pas être de José McCarthy, parce que c'est pas un roman, hein, c'est un essai philosophique, Être et ne pas être. Non, ça a été attribué à un roman publié chez Gallimard et par Xavier Leclerc. Alors bon, c'est pas un réunionnais, hein, mais ça s'appelle Un homme sans titre, et c'est un beau livre sur l'identité et l'intégration. Alors ça se passe, c'est l'histoire un peu du père de l'auteur, un peu romancé, donc un père qui a été broyé par le travail et le mépris, l'injustice et la misère, hein, après son arrivée d'Algérie au début des années 60, et voilà, donc son histoire est racontée par Xavier Leclerc, et a vu ce prix qui est mérité. Et d'ailleurs, il cite également Xavier Leclerc des phrases d'Albert Camus dans la présentation, donc c'est quand même une référence. Alors, à La Réunion, me direz-vous, ah bah oui, il y a le prix du roman métis des lecteurs, et là, c'est une réunionnaise qui a gagné. Et alors, Sophie l'avait invitée l'autre jour à Radio Sud Plus, c'est Marie-Claude Derby. Et alors, il y en a une qui est contente, c'est l'éditrice, hein, voilà, que je lui fais un gros bisou, édition du 20 décembre, voilà, et Marie-Claude Derby, elle a fait un livre. Alors c'est les Ladis Lafay dans une famille créole, Ma vie ou de fille, hein, on peut trouver le livre un peu partout, voilà, c'est un gros pavé déjà, hein, un roman qui raconte des histoires de famille, et Ma vie ou de fille, parce que on sait, tous les créoles, pas forcément les plus anciens d'ailleurs, le savent, quand une fille, une jeune fille, se balade toute seule dans la rue, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage pour aller dire aux parents « Ma vieille fille, là dehors, elle était avec un boug, là, oui, oui, oui. » Hein, on sait ce que c'est, encore maintenant, hein, ça se passe souvent comme ça. Bon, on n'en est plus au temps où les parents devaient chaperonner leur fille quand elle allait au Tout va bien, par exemple, à la Ravine des Cabris, ou dans d'autres salles de l'île, tu vois. Ah, les parents devaient surveiller. Hein. Alors maintenant, ça a bien changé, mais quand même, il y a toujours ce petit côté-là. « Ma vie ou de fille », les Ladis Lafay des quartiers. C'est bien raconté par Marie-Claude Derby, qui apparemment connaît le sujet, et on a été content de l'inviter, elle est super, à découvrir donc dans vos librairies le prix du roman métis quand même, hein, des lecteurs. Mais enfin, je dis toujours, les prix c'est bien, mais il ne faut pas seulement s'arrêter à ça, c'est pas parce qu'un auteur local en particulier est édité chez Gallimard ou à un prix local que c'est forcément seulement ça qu'il faut lire. Et c'est un peu dommage quand je vais dans des librairies que les gens, des fois il y a tellement de choix qu'ils se contentent de prendre bah voilà, le prix Goncourt. Allez, et puis on prend un truc qui est en couverture, voilà, qui a eu l'honneur de la presse de préférence nationale. C'est un petit peu dommage. Et puis bah, il n'y a pas assez d'émissions culturelles. Et ça, on le dit toujours et je le redirai à chaque émission. Les radios en dehors de nous, de Capital FM, peut-être de Radio Piquant, enfin de radios plutôt culturelles, eh ben, les auteurs, les artistes, les chanteurs n'ont pas assez de place, hein, localement. Et ben voilà, faut absolument donner plus d'une minute pour présenter un livre. Comment voulez-vous que la personne puisse présenter son œuvre comme ça en 30 secondes ? Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, avec les grosses télés. Bon, on a 30 secondes. Qu'est-ce que je fais avec 30 secondes, moi ? Je donne le titre du bouquin, c'est tout. Hein. Non, mais c'est pas possible. Regardez là déjà le temps qu'il me faut pour parler. Bon, alors, voilà, donc, alors, n'oubliez pas donc le prix Métis des lecteurs, mais il n'y a pas que les prix. Hein, il y a également, c'est comme les prix des bouteilles de vin, je dis toujours. Hein. Vous avez tous des médailles d'or. Hein. Vous allez au supermarché, tout le monde est médaille d'or ou médaille d'argent. Bon, et puis après, quand on lit ou quand on déguste, eh ben on voit pas tellement la différence, sauf si on est vraiment un très très grand amateur. Et encore, des fois, il peut y avoir des erreurs de casting. Hein. Ouais, parce que voilà, on a décidé que c'était bien, mais en fait, c'est pas si bien. On voit les critiques des livres, que ce soit comme les critiques de films ou d'œuvres, faut s'en méfier quelquefois. Hein. Moi, j'ai encore eu un exemple ce matin avec un film qui va paraître à La Réunion et qui est accusé de complotisme. Et alors, il s'est fait descendre sur Discover, je vous dis pas, et d'ailleurs sur tous les médias officiels. Donc, rien que ça, ça donne envie d'aller le voir, tu vois. Et la littérature, c'est pareil. Quand un livre se fait descendre par la presse, moi, j'ai envie de le lire, hein, tout de suite. Alors, quoi qu'il en soit, donc, je ne dirai pas plus de bien du livre de Marie-Claude Derby ou de Xavier Leclerc, parce que bon, il faut les lire, hein, c'est sûr. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez, voilà, des littératures qui sont jugées indigestes parce que le livre est trop brûlant. Alors quand le livre est trop brûlant, il est brûlé par les cerveaux et les estomacs sensibles. Hein. Eh ouais, où est le bon temps où seul le gluten était stigmatisé ? Maintenant, on stigmatise un peu tout. Et les néo-moralistes se gargarisent du mot malaisant également. Ça, j'ai remarqué, c'est extraordinaire. Non, ce livre est malaisant. On est dans... Également, moi, le reproche que je ferais, c'est plutôt qu'on est tous dans le tout à l'ego. Tout à l'ego, à cause surtout des réseaux sociaux, où nous avons tous, nous écrivains, l'impression d'être une vedette, alors qu'en fait on reste dans un petit cercle, finalement assez discret. Hein. Bon, cela dit, allez, on se prend pas au sérieux, c'est le principal. Et puis alors, les dédicaces de livres. Alors, n'oubliez pas, alors ça, il faut pas que je l'oublie, on a eu, Sophie Nativelle les a invités récemment d'ailleurs à Radio Sud Plus, on a eu Catherine Coulombelle, vous pouvez retrouver d'ailleurs son interview toujours sur radiosudplus.re, page en partage. Et puis alors, Catherine Coulombelle et également Tia Ferry, qui est venue encore plus récemment avec Vanille Givray, eh bien, les deux, vous les aurez également à l'entre-deux, donc ce week-end, à Vavangarte. Alors moi, j'ai envoyé à Vavangarte un petit mot pour leur dire c'est dommage qu'ils n'en parlent pas avant dans la presse et partout. Voilà, c'est à l'occasion du marché, alors d'un grand marché qui a lieu, un marché de Noël. Et alors, il y a plusieurs stands, dont un stand de livres. Et il y aura Catherine Coulombelle. Alors évidemment, elle habite à l'entre-deux. Alors c'est encore plus facile. Hein. Vous pouvez trouver ses bouquins même au syndicat d'initiative, enfin à l'office du tourisme, pardon. Ah non, on dit office du tourisme, faut pas se tromper. Hein. C'est comme conseil général, on dit conseil départemental. Il y a des mots. Hein. Alors les mots pour le dire. Donc Catherine Coulombelle qui écrit très bien. Alors moi j'ai bien aimé en particulier le premier livre qu'elle avait fait qui n'est pas en vente partout parce que il est plus difficile à trouver. Il n'avait pas trouvé d'éditrice locale et donc ça se passait dans des manifestations à Paris et voilà, c'était une belle étude de gens, de mœurs et avec des personnages vraiment passionnants. Debout toutes les nuits, ça s'appelle, ouais, Debout toutes les nuits. Trouvez ce bouquin de Catherine et il est bien. Et puis alors les autres, évidemment, bon, les brouillons interdits et d'autres. C'est quand même malheureux qu'elle ait dû, la première édition de des brouillons interdits, elle a dû le faire également par elle-même, hein, si j'ai bonne mémoire. Alors que maintenant, elle a trouvé une éditrice locale, deux éditrices locales que j'ai, puisque c'est deux filles, donc du tampon, on les salue, Oseril Édition. Et donc, elles auront un stand donc à la médiathèque. Alors, il y aura elle et Tia Ferry, peut-être d'autres ouvrages aussi. Et le dernier ouvrage de Catherine Coulombel, alors, il faut en parler, on va l'inviter pour ça certainement. Vrai ou fou, ça s'appelle. Vrai ou, pas vrai ou faux, vrai ou fou. Eh oui, on aime bien jouer sur les mots pour les titres, voilà. Alors toujours, on vous rappelle, le samedi 25 et dimanche 26 novembre, de 9h à 18h, hein, toute la journée, ce sera pas debout toutes les nuits, là, hein, Catherine, ce sera, tu seras debout tous les jours, voilà. Alors tout le week-end, en tout cas, avec Tia Ferry. Alors d'autres dédicaces auront lieu à Saint-Denis également. Alors Saint-Denis, j'ai juste noté Jacqueline Farérol à la librairie Gérard, voilà, c'est ce week-end aussi. Jacqueline Farérol, un beau livre pour enfants, illustré par Modeste Madoré. Alors les plus belles chansons de Jacqueline Farérol, illustrées par un des meilleurs artistes illustrateurs réunionnais. Moi, j'adore ce que fait Modeste Madoré, je le dis, hein. Je vous en ai déjà parlé pour quand il a fait le magnifique petit livre avec les petits oiseaux, là, fait avec Joël Écormier. Joëlle Écormier, qui est une autrice pour adultes et pour jeunes, incroyable, voilà, et très discrète, on n'en entend jamais parler, alors qu'elle a édité en métropole partout, et puis dans les salons, elle est très discrète, elle se met pas en valeur, alors que c'est pour moi peut-être la meilleure, enfin l'une des meilleures autrices de La Réunion, voilà, Joëlle Écormier. Et alors là, c'est Jacqueline Farérol, alors c'est un autre genre, c'est la chanson, mais Jacqueline est une poétesse aussi, et Jacqueline Farérol, Modeste Madoré, alors le chemin de Jacqueline en dessin, le cheminement de Jacqueline et les chansons en dessin pour les enfants, voilà. Ça me fait penser aussi au beau livre qui a été fait avec Daniel Warreau en vedette également, avec des illustrations et Daniel Warreau pour les enfants à découvrir aussi dans toutes les librairies, voilà. Alors le marché, donc Wavrengaard, n'oubliez pas, ce week-end à l'entre-deux, en ce qui concerne le sud, et puis évidemment les dédicaces dans les librairies, bon, il y en aurait presque trop, moi je renonce à les citer, parce que maintenant il y a tellement d'auteurs, 300 auteurs répertoriés, hein, quand même à La Réunion, sur le site La Réunion des Livres, et tous veulent faire des dédicaces dans les librairies, c'est la foire d'Empoigne, il y en a toutes les semaines partout, pratiquement, et ça devient vraiment... C'est vraiment un peu brouillon, hein, même quand on en parle sur Facebook et tout, même à Radio Sud Plus, on va finir par s'embrouiller, plus savoir qui fait quoi. Alors je renonce à les dire toutes, mais en tout cas, vous pouvez retrouver sur les pages des auteurs, sur Facebook en particulier, plein de renseignements, et donc sur la page, n'oubliez pas, de La Réunion des Livres. Alors là, vous avez tout, La Réunion des Livres sur Internet, vous avez tous les renseignements souhaitables, une association vraiment super dynamique qu'il faut absolument encourager.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Terminer cette rubrique un peu spéciale où mon amie Sophie n'est pas là et elle est toujours bienveillante et gentille avec tout le monde, Sophie, alors que moi je suis le grand méchant de service. Hein. Ah ouais, là on est avec les livres, hein, on est comme vous savez, le gentil policier et le méchant policier. Alors là on est au micro, allez, avoue que ce livre tu l'as fait avec ChatGPT. Non, je blague, allez, c'est pas vrai, hein, je suis pas méchant comme ça. Mais là j'ai fait un petit article moucateur l'autre jour sur Parallèle Sud. Alors je vais terminer avec ça. Il en faut pour tous les goûts. Alors, il en faut pour tous les goûts, c'est d'ailleurs ce que me dit Sophie, hein, quand on se voit. Oh, bah oui, mais toi, et c'est vrai qu'il y a des genres qu'on peut aimer ou pas. L'important, moi je dis toujours, ce n'est pas le genre de littérature ou le genre de musique, c'est la qualité, la manière dont ça a été travaillé, fabriqué, hein, c'est bien fait ou c'est mal fait. La personne, elle chante faux ou elle joue faux, ou elle écrit comme avec ses pieds. Bah là, quand même, et bah, il faut le dire. Hein. Et voilà, il ne faut pas quand même laisser passer n'importe quoi. Cela dit, il en faut pour tous les goûts en matière de genre, et je suis bien d'accord avec Sophie. Alors, c'est quand même une réponse politiquement correcte et bienveillante, voilà, que je reçois souvent quand je pose une question qui gêne, voilà, ceux à qui je parle. Alors, déjà, première chose, ne mégenrons pas tout, tu vois, c'est déjà dur à dire. Alors à propos, commençons par un sujet polémique qui enflamme les réseaux sociaux et la susceptibilité de leurs utilisateurices. Oui, vous l'avez deviné, je veux parler de la grammaire inclusive qui vise à rétablir, selon ses promoteurices, moi c'est le mot que j'ai trouvé pour faire à neutre, hein, tu vois. Alors, donc promouvoir l'équilibre toujours instable entre les genres. Une intellectuelle féministe a même proposé l'idée de féminiser de nombreux mots masculins afin de démontrer à quel point nous sommes habitués depuis des siècles à ce que la sonorité du patriarcat l'emporte sur la sororité du matriarcat. Ne cherchez pas de contrepétrie dans cette dernière phrase, il n'y en a pas. Même le gouvernement s'émeut et veut freiner les réformes qu'envisagent des universitaires à ce sujet. Sujet qui, à mon avis, ne devrait être ni masculin ni féminin, mais carrément neutre. Selon moi, ce serait la seule solution pour éviter que la serpente se morde le queue et pour éviter de tomber dans une inclusivité toxique. Pour les auteurices et les lectrices, cette réforme bouleverserait les habitudes d'écriture et de lecture. Elle risquerait aussi d'augmenter la taille de bouquins déjà parfois trop indigestes. Alors par exemple, bon, s'il faut remettre e.e.s à chaque truc, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois, il y aura un bouquin de 300 pages, tu en auras 350. Et puis alors, comment on le dira à l'antenne, hein? Alors, comment traduire Alors, neutralisons la polémique. La forme neutre généralisée se pratique plus ou moins dans de nombreuses langues, l'anglais, le créole, voire l'allemand, qui possède lui les trois formes, der, masculin, die, féminin, et das, neutre. Pour un allemand, il suffirait donc d'utiliser das pour tous les noms. Mais comme en français, il n'existe pas d'article neutre, il faudrait d'abord l'inventer, puis éliminer les formes masculines et féminines de tous les mots du dictionnaire. D'ailleurs, les réformateuristes ont déjà suggéré de supprimer les mentions « monsieur » et « madame » sur les formulaires administratifs. Et ne parlons même pas de « mademoiselle ».« Mademoiselle » jugée offensant, à moins qu'on rétablisse l'équilibre avec « mon damoiseau ». La forme neutre résoudrait aussi le problème des autres genres, qui, malgré une impossibilité théorique de multiplication, semblent se reproduire dans un nombre infini de nuances. Je ne sais pas si mon idée de neutralité fera des adeptes, mais je crains qu'elle soit considérée comme de la lâcheté par le gouvernement, dans la mesure où, si j'en crois les médias, il est très mal vu d'être neutre en ce moment. Allez, bah bonne journée à tous, on se retrouve pour la revue de presse et l'émission de Sophie avec une invitée. Sophie sera là probablement la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Page en Partage, hein, une des seules émissions sur la littérature à La Réunion. Salut!
Il était une fois un pays merveilleux où tous les habitants étaient des gens heureux. Ils avaient découvert qu'avec de simples mots, comme par magie d'un coup, tout devenait plus beau. Plus de nains, pas d'aveugles, rien que des non-voyants, des gens de petite taille et des malentendants. Et sitôt qu'un obèse approchait le quintal, on usait d'allusions au surplus pondéral. Plus chômeur, le vocable est très laid, mais demandeur d'emploi, l'euphémisme plaisait. Plus de rouge, plus de jaune, plus de noir qui font peur, on louait en revanche les personnes de couleur. Tout l'art de ne pas dire en sachant l'évoquer, escamote le concierge, contourne le handicapé. Technicien de surface, mobilité réduite, jamais prononcée, mais toute la chose est dite. Appeler un chat, ba-ba-ba-ba-ba. Non mais oh ça va pas, mais vous n'y pensez pas. Non mais eh, oh n'importe quoi. Un chat ba-ba-ba-ba-ba. Comment nommer alors le garçon constipé? Je propose un pudique terminal obstrué. Et pour le dégoûtant qui nous largue une caisse, j'ai volé si géré, confectionnaire de veste. Si le doigt du docteur le limite au rectal, sa moustache l'anoblit en poilu subnasal. Des mots tout en tabou, soucieux du contentieux, tournent autour du pot sur la pointe des œufs. Appeler un chat, ba 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 ba. Non mais oh ça va pas, mais vous n'y pensez pas. Non mais eh oh n'importe quoi. Un chat ba, 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 ba. Mais vous n'y pensez pas. Appelez un chat, dès lors nous le savons. Stigmatise le félin, il n'en est pas question. Pour aller droit au but, et sans salamalec, soyons pour vivre mieux. Poli, poli, politiquement correct. Appelez un chat, ba 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 ba. Non mais oh ça va pas, mais vous n'y pensez pas. Non mais eh oh n'importe quoi. Un chat ba 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 ba. Mais vous n'y pensez pas. Oh, ba 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 ba.
Radio Sud Plus Réunion, la sensation.